Chapitre 22. Talion. Salem, Massachusetts. Vendredi 16 juillet 2010. Tout s'était accéléré la veille lorsque Robbie Sanders avait reconnu sa montre au poignet de Lorraine. Ce n'était pas un modèle unique, mais nous pûmes facilement en vérifier la provenance. Robbie Sanders la tenait de son père, Christian Sanders, et celui-ci l'avait fait graver à ses initiales. Au dos du boîtier, nous découvrîmes effectivement une discrète mention « CS » à laquelle Lorraine n'avait jamais prêté attention.
« C'est bien ta montre, Rob ?»
murmura Donna Sanders, stupéfaite.
« Où l'avez-vous trouvée ?»
s'enquit son mari.
« On me l'a donnée ?» expliqua Lorraine. « Ça me vient de mon frère. »
« Et comment votre frère l'a-t-il récupérée ?»
« Je l'ignore. »
Lorraine ôta immédiatement la montre de son poignet, comme si elle lui brûlait la peau. Robbie Sanders crut qu'il allait pouvoir la récupérer, mais Gale Wood intercepta l'objet.
« Je suis désolé, Monsieur Sanders, » dit-il, « mais cette montre est désormais une pièce à conviction dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage survenu chez vous en octobre 1998. »«
C'est une affaire vieille de 12 ans, » fit remarquer Robbie Sanders.
« Elle n'est pas classée pour autant. Je vous rappelle que votre voisin a été gravement blessé en voulant arrêter les malfaiteurs. »
Dans le salon des Sanders, nous assemblâmes les pièces du grand puzzle qui s'offrait à nous. Robbie et Donna Sanders nous racontèrent en détail la soirée du cambriolage. C'était leur anniversaire de mariage, et comme tous les ans, ils étaient allés dîner dans un steakhouse du centre-ville. En rentrant chez eux, ils avaient découvert la rue illuminée de gyrophares et tous les habitants du quartier attroupés devant leur maison.
« Ce pauvre Francisco Rodriguez, »
se lamenta Donna Sanders,
« il s'en est sorti, mais sa vie a été brisée. Il a subi de multiples opérations à la jambe et il n'a jamais pu remarcher correctement. Il a été muté dans les services administratifs de la police. Il a déménagé depuis. Il ne pouvait plus vivre dans sa maison à cause des escaliers. »
« Et donc, si j'en crois leur rapport, » intervint Galwood, « lors de ce cambriolage, le seul objet volé a été cette montre. C'est exact. »
« Oui, » répondit Robbie Sanders. Ils sont passés par la porte arrière et sont allés directement dans mon bureau.
« Si j'en crois le rapport, » poursuivit Galwood, « Francisco Rodriguez a été alerté par un bruit de verre qui doit correspondre au bruit d'un carreau de la porte. Le temps pour lui de faire quelques pas dans la rue et de repérer cette voiture suspecte devant chez vous, les cambrioleurs étaient déjà dehors. On peut dire qu'ils étaient très bien enseignés.
« Effectivement, » acquiesça Robbie Sanders.
Le coffre-fort n'a pas été forcé. Vous avez déclaré aux policiers que vous aviez peut-être oublié de le fermer dans la précipitation de votre départ au restaurant.
C'est vrai, on était en retard ce soir-là. Je ne voulais pas perdre notre réservation.
Tu es toujours en retard, Rob,
fit remarquer Donna qui était à milieu d'imaginer ce qui allait se passer dans son salon.
Votre montre était assurée? Demanda alors Galwood.
Oui.
Et vous n'avez pas eu de difficulté à être remboursé malgré votre étourderie? Les compagnies d'assurance n'aiment pas tellement les clients qui ne ferment pas leurs coffres. En général, elles rechignent à payer.
Oui, c'est vrai, admit Robbie Sanders. J'ai dû envoyer un courrier d'avocat, mais ça s'est réglé. Je ne vois pas où vous voulez en venir, sergent. Pourquoi me parlez-vous de tout cela?
Parce que vous voyez, monsieur Sanders, quand je suis sorti de l'académie de police, j'ai été affecté quelque temps à Police Secours. C'est le cursus habituel. J'en ai vu pas mal des cambriolages. Et croyez-moi, presque systématiquement, les victimes ajoutent des objets volés imaginaires à leurs déclarations. Surtout, elles se gardent bien de révéler un manquement de leur part qui pourrait leur être reproché. Une fenêtre laissée ouverte, une porte restée déverrouillée. Ils veulent être certains que l'assurance ne va pas leur faire de difficultés.
Sergent, pardonnez-moi, mais je ne vois toujours pas où vous voulez en venir, répéta Robbie Sanders.
Une tension s'installait dans la pièce. J'admirais Galwood envoyer son premier missile.
« Eh bien, monsieur Sanders, quand on vient de se faire voler une montre à $30 000 dans son coffre et qu'on pense avoir oublié de le fermer avant de partir, on dit au policier « Je ne comprends pas, il était pourtant verrouillé. Je vérifie toujours 2 fois avant de m'en aller. » Pourquoi, dans votre cas, confier aux enquêteurs une négligence de votre part ? Vous êtes la victime dans cette affaire, pas le coupable, non ?
Évidemment que je suis la victime. Sur le moment, j'étais ému de ce qui venait de se produire, du voisin renversé, de notre domicile violé. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de mentir. Je suis un honnête citoyen, sergent.
Je pris alors le relais. « Monsieur Sanders, nous nous demandons si ce cambriolage n'est pas en lien avec un autre vol. »«
Lequel ?»«
Les 50 000 $ qui appartenaient à votre fille et que vous avez ponctionnés de son compte en banque. »
Robbie Sanders se leva brusquement.
« Comment osez-vous »
hurla-t-il. Sa femme poussa un cri, sans que l'on sache si c'était de la stupeur ou une tentative de calmer son mari. Je crus qu'il allait me flanquer son poing dans le visage. Mais il se mit à pleurer comme un enfant. Donna Sanders était complètement perdue.
« Robbie, de quoi parle-t-il ? Robbie, que se passe-t-il enfin ?»
Il s'effondra dans le canapé, sa femme l'enlaça. Il nous parla alors du démon qui le possédait à cette époque-là et dont son épouse ignorait tout.
« Tout s'est passé si rapidement, » nous raconta Robbie Sanders. « Je n'avais jamais vraiment joué jusqu'à ce que des clients insistent pour m'emmener au casino. C'était en 1997. Je ne pouvais pas refuser, je ne voulais pas les vexer. Et puis ça m'amusait aussi de découvrir cet univers. Je me suis installé à une table de blackjack et là, j'ai commencé à gagner, partie après partie. J'amassais près de 10 000 $ de jetons. J'étais en transe. Plus je misais, plus je gagnais. La sensation grisante du gain était tellement forte. Et puis la soirée a mal tourné. Je me suis mis à perdre et perdre encore. Et plus je perdais, plus je voulais me refaire. Je me suis arrêté quand je suis revenu à zéro. Cette nuit-là, de retour chez moi, je n'ai pas dormi. J'étais hors de moi. Comment avais-je pu passer à côté de tout cet argent? Pourquoi ne pas m'être arrêté plus tôt? Je n'avais qu'une idée en tête, jouer à nouveau. Et cette fois, gagner. Je me suis mis à fréquenter assidûment les casinos, sous couvert de dîners professionnels. J'évitais celui de Salem pour ne pas être reconnu. Mais ce que je gagnais, je finissais immanquablement par le perdre. Au début, il y avait un certain équilibre. Mais courant 1998, je me suis mis à accumuler les pertes. Je n'arrivais pas à me refaire. Mais impossible d'arrêter de jouer. Je croulais sous les dettes, j'avais besoin de liquide. À la fin de l'été 1998, la pression est montée de la part de mes créanciers. L'un d'eux menaçait de tout révéler à ma femme. Pour le calmer, j'ai mis la montre de mon père en gage, cette montre à laquelle je tenais plus que tout. Environ 2 semaines plus tard, lorsque je me suis rendu à la banque avec Alaska pour déposer son chèque de 15 000 $, j'ai pris conscience que j'avais librement accès à son argent. En sortant de la banque, je n'avais plus que cela en tête. Il y avait sur le compte de ma fille de quoi récupérer ma montre et payer mes dettes. Tourner cette page sombre de ma vie, puis rembourser Alaska aussi vite que possible. Je voulais d'ailleurs me faire aider, j'avais trouvé le nom d'un psy spécialiste dans l'addiction au jeu. J'avais juste besoin d'un petit coup de pouce. Tout cet argent qui dormait sur le compte d'Alaska, je suis donc allé à la banque et j'ai vidé son compte. Ce n'était qu'un emprunt, j'avais l'intention de la rembourser.
« Mais Alaska a tout découvert, »
dis-je. « Oui, c'était un vendredi. » Le vendredi 2 octobre 1998.
Salem, Massachusetts, vendredi 2 octobre 1998. C'était la fin de l'après-midi. En entendant la porte d'entrée, Robbie crut d'abord que c'était sa femme qui rentrait de Providence, où elle était allée régler des questions de succession avec ses sœurs.
« C'est toi, Donna ?»
lança Robbie depuis le salon où il lisait le journal. Aucune réponse. Il vit alors Alaska apparaître.
« Oh, bonjour ma chérie. Je te croyais déjà partie pour ton week-end avec Walter. Tout va bien ?»
Sa fille le dévisageait d'un œil mauvais.
« Alaska ?»
s'inquiéta Robbie.
« Où est mon argent ?»
demanda-t-elle. Robbie blêmit.
« Alaska, chérie, laisse-moi t'expliquer. »«
Où est mon argent ?»
hurla-t-elle.
« Écoute, c'est compliqué, je... »«
Gary Stenson, à la banque, m'a dit que tu l'as transféré sur un autre de mes comptes. De quoi parle-t-il? Je n'ai pas d'autre compte. »
Robbie n'eut pas d'autre choix que de tout lui avouer.
« J'ai tout dépensé, j'avais des ennuis. »
Alaska était atterrée.
« Mais enfin, tu n'avais aucun droit.
Je vais tout te rembourser, je te le jure. »
Leur dispute fut momentanément interrompue par la voix de Walter. Il venait chercher Alaska comme prévu.
« Pardon ?» s'annonça-t-il, « mais j'ai entendu des cris, alors je me suis permis d'entrer. »«
Retourne dans la voiture et attends-moi, »
lui intima Alaska. Walter fila dehors sans demander son reste.
« Alaska, » bredouilla Robbie, « laisse-moi t'expliquer. J'ai contracté de grosses dettes de jeu, et je me suis retrouvé contraint de mettre la montre de grand-père en gage. Tu comprends, je devais absolument récupérer cette montre avant qu'elle ne soit vendue et qu'elle disparaisse. C'est un bijou de famille, elle te reviendra un jour. Elle est unique. Donne-moi une semaine et je t'aurai remboursé.
Alaska n'en croyait pas ses oreilles.
Tu m'as volé pour récupérer ta stupide montre. Je te hais. Je ne veux plus jamais te parler, plus jamais te voir.
Elle se précipita à l'étage, décidée à quitter la maison. Son père lui emboîta le pas, s'efforçant de la raisonner. Dans sa chambre, elle attrapa un sac de voyage en cuir et y fourra quelques effets. Son père la supplia.
« Alaska, écoute-moi, je t'en prie, tout va s'arranger. Menteur, voleur !»
Soudain, au rez-de-chaussée, la porte s'ouvrit. On entendit la voix de Donna Sanders.
« Que se passe-t-il ici ? » s'écria-t-elle.
« Par pitié !» murmura Robbie à sa fille. « Ne dis rien à ta mère. Je vais tout te rembourser, je te le jure, mais s'il te plaît, pas un mot. »«
Tu n'avais pas le droit de me faire ça !»
hurla Alaska.
« Si ta mère apprend ce qui s'est passé, elle va vouloir divorcer. Tu ne veux quand même pas que tes parents divorcent pour cette histoire qui va se régler, je te le promets. »
Donna apparut à l'étage.
« Que se passe-t-il »
s'écria-t-elle en arrivant devant la chambre de sa fille. Il y eut un silence. Alaska avait le visage tordu par la rage et les pleurs. Elle fixa sa mère et lui demanda.
« Tu veux vraiment savoir ?»«
Évidemment que je veux savoir !»
Robbie intervint.
« J'ai trouvé de la marijuana dans les affaires d'Alaska !»«
Papa !»
hurla Alaska.
« Alaska !»
se désola Donna Sanders.
« Non, pas toi !»«
Eh si !» éructa Robbie. « La confiance est trahie, je ne peux pas y croire !»«
Alaska, tu m'avais promis que tu n'y toucherais jamais. Tu te rends compte des conséquences ? Si ça se sait, tu peux perdre ton titre de Miss Nouvelle-Angleterre et tu peux dire adieu à tes rêves de cinéma !»
Alaska fusilla son père du regard. Elle attrapa son sac et s'enfuit. Elle dévala les escaliers, franchit la porte de la maison et se précipita dans la Ford Taurus noire de Walter. Donna interrompit le récit de son mari. Elle était épouvantée.
« Tu as inventé cette histoire de marijuana ?»«
Oui, et Alaska ne m'a pas contredit. » Elle est partie pour ne pas avoir à se défendre, pour me protéger. J'ai indirectement causé la mort de ma fille. Je ne suis pas un meurtrier, et pourtant je l'ai tué moi aussi.
Donna Sanders s'effondra en pleurs. Malgré l'état des parents d'Alaska, Gale Wood fut obligé de poursuivre.
C'est Alaska qui a orchestré ce cambriolage le soir du 8 octobre 1998. Elle était au courant de l'existence de cette montre et connaissait le code du coffre-fort. Elle savait également que vous seriez absent pour fêter votre anniversaire de mariage. Elle a volé votre montre pour se rembourser. Ou se venger. C'était Alaska et vous l'aviez immédiatement compris. Raison pour laquelle, après le cambriolage, vous annoncez d'emblée à la police avoir oublié de fermer le coffre. Vous ne vouliez pas que la police puisse remonter jusqu'à votre fille.
Oui, avoua Robbie Sanders. J'ai tout de suite su que c'était elle. Non seulement parce qu'elle connaissait le code de mon coffre, mais aussi parce que nous avions laissé pendant des années un double de la clé de la porte arrière sous le paillasson, puis sous un pot de fleurs. Je venais de l'enlever car notre voisin Rodriguez, policier si sympathique, nous avait mis en garde contre une recrudescence des cambriolages. Et puis, il y avait cette Ford Taurus noire dont les flics parlaient, et je savais que Walter en conduisait une, ce que je me suis bien gardé de leur dire.
Gale Wood se tourna vers Donna Sanders.
Et vous, Madame Sanders, soupçonniez-vous Alaska ?
Elle dévisagea Gale Wood avec un air effaré.
Parce que vous croyez que j'ai imaginé une seconde que mon mari avait volé ma fille, puis qu'elle allait se venger ? Et pensez-vous vraiment que je connaissais le foutu modèle de bagnole du copain d'Alaska ? Ou que je me doutais que ma fille, ma charmante fille, avait estropié un flic en lui roulant dessus ?
Nous ignorions si c'était Alaska qui était au volant ce soir-là. Mais elle était sans aucun doute dans la voiture puisque Rodriguez avait déclaré avoir vu deux personnes à bord. Qui était la seconde ? Walter Carey ? C'était probable. Malheureusement, ni Alaska ni lui n'étaient plus là pour éclairer notre lanterne. En revanche, nous savions enfin, du moins c'est ce que nous croyions, ce qui s'était passé à Salem et à quoi les messages reçus par Alaska faisaient référence. Elle avait participé à une tentative de meurtre sur un policier et quelqu'un la menaçait de tout révéler. On comprenait désormais mieux la peur panique d'Alaska lors du contrôle de police à Conway, a fortiori si elle se trouvait à bord de la voiture utilisée le soir du cambriolage. Pour confirmer cela, il nous restait à élucider une dernière question. La Ford Taurus noire impliquée était-elle bien celle de Walter Carré? Selon Gale Wood, quelqu'un à Mount Pleasant pouvait répondre à cette question et il voulait l'interroger sur le champ. Juste après la mort d'Alaska, Walter Carré avait fait réparer sa voiture en catimini par un de ses amis de l'époque, Dave Burke, qui travaillait comme mécanicien à la concession Ford de Mount Pleasant. C'est lui que Gale Wood voulait interroger.